Cœur de l'être avec Marie-Lou Brousseau.
Mesdames et messieurs, bienvenue au Cœur de l'être. Marie-Lou Brousseau avec vous et Pierre Degagné à la mise en onde. Aujourd'hui, je reçois le psychologue Jean-François Vézina. Il est auteur de plusieurs livres traduits dans de nombreuses langues, dont Les succès de librairie, Les hasards nécessaires, L'aventure amoureuse, Danser avec le chaos, et peut-être que j'en oublie.
Tout se joue avant 100 ans.
Ah, c'est justement celui-là qui est peut-être très important parce qu'on va parler aujourd'hui oui, du jeu. Donc, Tout se joue avant 100 ans. J'imagine que la personne qui est 105, parce qu'il y en a, hein.
Mais là, je suis en train de revoir le titre, là, je vais peut-être le rebaptiser « Tout se joue à tous les instants ».
Ah, ça c'est merveilleux. Alors là, on parle. J'aimerais, bon, alors moi je connais Jean-François depuis plusieurs années et je l'ai vu évoluer et là je le vois arriver aujourd'hui avec l'idée de parler de jeu. Mais j'ai envie de savoir de Jean-François Vézina, qu'est-ce que le jeu pour lui? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a des milliers de livres là-dessus. Il y a Winnicott qui a écrit sur le jeu aussi. Jean-François Vézina, pour vous, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi le jeu?
Écoute, Marie, on peut se tutoyer.
Oui, Marie-Lou.
Marie-Lou. Écoute, Marie-Lou.
Oui.
Le jeu, pour moi, c'est plusieurs niveaux. Hein. D'abord, un jeu, c'est un espace. Quand quelque chose est trop serré, on donne du jeu, on donne un espace. Donc, c'est d'abord cette première idée. Est-ce qu'on se donne de l'espace dans ce qu'on vit? Alors, ça, c'est le premier niveau. Le jeu, c'est aussi un style. Quand on dit le jeu d'un violoncelliste, par exemple, c'est son style. Donc, ça, c'est un autre niveau du jeu. Mais le jeu, c'est aussi une prédisposition à tout voir comme un défi à relever. Comme particulièrement actuellement. C'est-à-dire, actuellement, c'est très sérieux, c'est très grave ce qui arrive. Il y a quelque chose de très grave qui nous tombe dessus. Puis d'ailleurs, c'est un événement avec la COVID. Moi, j'appelle ça l'éco-vide. C'est l'éco-vide qui réveille le pire et le meilleur de l'humanité. Il y a quelque chose de très grave dans ce qui arrive. Donc, il y a une gravité. Mais le sens du jeu, c'est d'arriver à jouer avec cette gravité. C'est-à-dire que de ne pas se laisser emporter par la gravité mondiale, puis voir comment pour moi c'est grave, à quel niveau pour moi c'est grave, et comment je peux jouer, moi, avec cette gravité. Et le jeu, c'est aussi une invitation, et puis à l'époque où j'avais écrit Tout ce jeu avant 100 ans, il y a un livre qui n'avait pas encore été publié d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Simon Sinek, qui a repris l'idée des jeux finis et infinis. C'est une idée qui a été inspirée d'abord par John Carr dans les années 80, c'est-à-dire est-ce que je joue dans un jeu fini ou un jeu infini? Un jeu fini, c'est je veux être le meilleur, je veux gagner, je veux... c'est quelque chose qui se termine quelque part. Alors que la vie est beaucoup plus un jeu infini. On est toujours en train de faire quelque chose, on est toujours en train d'apprendre quelque chose. Et un des principes du jeu infini, c'est dans la vie, soit je gagne ou j'apprends. Et de toujours avoir cette perspective du jeu infini.
Il y a une finition, finalement.
Il y a une finition dans le processus. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de jouer. Et quand je suis dans une énergie de jeu, tout ce que je rencontre est une occasion d'apprendre ou de gagner, de certaine façon. Je gagne ou j'apprends. Donc, on enlève complètement l'idée de...
De perdre.
L'idée de perdre perd son sens. Parce qu'on est une société, puis ça, s'il y a un avant et un après avec les COVID en ce moment, là, je pense que ça, on peut le voir à ce niveau-là. C'est que là, on n'a pas le choix de jouer dans un jeu qui est assez infini. On ne sait pas quand est-ce qu'on va gagner contre la COVID. C'est quelque chose qui est pas mal plus grand que nous autres.
Excuse-moi, j'ai envie de t'interrompre.
Oui,
ce que je fais rarement, je me demande, est-ce qu'on doit gagner contre la COVID?
Non, c'est ça le piège.
Ou si on doit justement juste comme aller avec elle et essayer de comprendre.
Exact. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Le jeu fini, c'est je voudrais gagner contre quelque chose. Le jeu infini, c'est on est en train d'apprendre quelque chose sur nous, chacun de nous, hein, dans l'épisode qu'on est en train de traverser. Moi, j'ai souvent la question du sens, parce qu'on cherche le sens. Hein, il n'y a pas de sens en soi. Puis d'ailleurs, c'est souvent un embêtement, c'est-à-dire quel est le sens de la COVID? Le sens, il n'est pas à l'extérieur. Et comment, moi, je vais créer du sens avec ça? Le sens, c'est un besoin qui est universel, mais qu'on doit répondre personnellement. Donc, le sens est un élément important du jeu, c'est-à-dire, quel est le but? C'est-à-dire, on se ramène à notre notion de but. Quel est le but? Quel est le sens que je vais donner à ce que je fais?
Est-ce qu'on doit fabriquer du sens ou le laisser émerger?
C'est un mélange des deux, et tu me connais pour m'être intéressé beaucoup à la synchronicité, hein, la rencontre synchronistique qui crée un avant et un après. Ce qui est beau dans la synchronicité, c'est ce jeu, justement, entre il y a un sens qui m'est proposé par la vie. La vie, elle joue tout le temps. La vie, elle joue avec ses possibilités. Puis, il y a moi qui va jouer ou pas avec ce qui m'arrive. Donc, la question du sens, c'est une co-création. On pourrait dire, c'est une co-création avec la vie. Il y a quelque chose qui m'est proposé, puis moi aussi, je peux prendre un relève. T'écris des livres, tu le sais, c'est quoi à un moment donné? Tu veux écrire ton livre à toi. Tu dis, OK. Puis à un moment donné, t'es saisi par une idée qui vient de quelque part. C'est pas toi qui l'a. Non, l'idée te saisit ou l'idée te prend. Un peu comme parfois, un sens nous prend. Et c'est à nous de voir si on va danser, si on va bouger dans le sens qui nous est proposé.
Alors, on peut le refuser aussi, le sens.
Oui, et puis on peut être dans un état de fermeture, puis là, on revient à la notion de jeu, c'est-à-dire, je peux dire, je ne joue qu'avec ce qui fait mon affaire. Hein? On est souvent dans une espèce de mécanique consumériste, c'est-à-dire, ça, je le prends, une espèce, on magasine nos événements, cet événement-là, je le prends, cet événement-là, je le prends pas.
Ben, est-ce que c'est du jeu, ça, à ce moment-là?
Ben, on est joué. On est beaucoup plus joué par une mécanique où, justement, on était habitué à l'extérieur, à attendre que quelque chose vienne de l'extérieur et que ça ne vienne pas de nous. Donc, le jeu est très proche de la créativité aussi. Pour moi, pour répondre à la question initiale de qu'est-ce que le jeu, c'est une capacité de co-créer avec ce qui me tombe dessus.
Tu me disais, Jean-François, qu'il y a quatre grands principes du jeu.
Ouais. Les quatre grands... Puis là, je pense qu'on peut en parler parce qu'actuellement, on est bombardé par le principe. On va les donner tout de suite. Là.
Ouais.
Des buts,
ouais.
Des règles, des défis et des récompenses.
Est-ce que c'est pas enfermant, ça?
C'est tout à fait enfermant et c'est ce que ça prend. Il faut l'enfermer à un moment donné pour pouvoir faire éclater quelque chose. Hein? On crée un espace. On crée un espace de jeu, justement, à partir de quatre principes. Moi, je fonctionne beaucoup avec le quatre. Je suis très près de Jung. Hein? Jung fonctionne beaucoup avec les quatre principes. Fait que c'est quatre principes qui peuvent nous aider à circonscrire un espace dans lequel on peut jouer. Comme par exemple, sur un concret, en ce moment. En ce moment, on est bombardé par des règles. Hein, le gouvernement nous dit, vous devez faire ci, vous devez faire ça, puis on doit le faire. Ça. Mais c'est pas le gouvernement qui nous dit quel est le but. C'est-à-dire, quel est notre but à nous? Il y a un but collectif qui, on va prendre soin de nous. Hein, puis Mais donc, la question du but, ça revient à chacun de nous par rapport à ce qui nous arrive. La question des défis. Moi, comment je vois ça, la COVID? La COVID, je peux voir ça comme une occasion, justement, de dire le gouvernement fait ci, de me révolter contre le gouvernement, ou de voir seulement ça comme un défi extérieur à moi. Et souvent, moi, je suis un peu critique par rapport aux gens qui sont un peu complotistes, au sens où souvent le gouvernement, c'est juste une projection de papa-maman, c'est-à-dire c'est une projection d'une figure parentale. Et c'est plus facile de voir lui comme défi, comme obstacle, et non pas voir qu'on est invité chacun de nous dans cet événement en ce moment à voir le défi qu'on va prendre. Comment on va relever le défi? Hein, et les récompenses, c'est comment on se donne nos récompenses. Donc, plus on est libre de fixer nos buts, nos règles, plus on est libre de faire face à la réalité des obstacles qu'on transforme en défis, et plus on est libre des récompenses qu'on se donne, parce que la récompense la plus populaire, on s'entend que c'est l'argent. Généralement, c'est pas mal la plus populaire, mais on oublie l'or.
L'amour.
Ouais. La relation, hein, t'as des racines autochtones. Moi, j'ai réussi à trouver aussi, j'ai un filon autochtone aussi, je suis métisse aussi, pour les métisses, pour les autochtones. La relation, c'est une récompense au sens où, quand on crée des relations dans la vie, ça a extrêmement de valeur, ça a extrêmement de sens.
Tu disais quelque chose, puis ça a comme résonné à l'intérieur de moi quand tu disais que de revenir à l'intérieur de soi, ouais. De faire un changement intérieur, parce qu'il y a papa, maman qui sont là, mais... Ouais. Le fait de faire mon propre changement intérieur, ça ne change pas nécessairement la dynamique de papa-maman. Ça me fait juste changer de... C'est un peu comme si je me déplaçais pour voir autrement et agir autrement en fonction des règles qui sont offertes là sans me sentir brimée, c'est ça?
Est-ce que tu te souviens de la scène du film La Société des poètes disparus?
Oh, ben, c'est un de mes films, oui. Je ne sais pas laquelle tu parles. Là.
Quand il se lève sur son bureau.
Oui, ça c'est une des... Ah oui, ça c'est vraiment une des scènes les plus touchantes, les plus prenantes, exact. Et c'est le défi effectivement.
Exact, de se repositionner, de se donner du jeu, de se donner un autre point de vue.
Mais peut-être raconter cette scène-là pour les auditeurs.
Donc, c'est le professeur qui arrive dans une salle de un collège très conventionnel, hein, avec des règles très, très strictes à respecter. Puis là, il arrive, puis la première chose qu'il lui dit par rapport à la poésie, le livre, la poésie, c'est un graphique, etc. En tout cas, bref, il arrive, il lui dit, gardez-là, ce que vous allez faire, vous allez déchirer cette page-là. D'ailleurs, dans tout ce jour, on s'entend, j'invite les gens à déchirer aussi, hein, pour les gens qui l'ont lu, ou en tout cas, pour, j'invitais aussi, c'était inspiré de ça, c'est-à-dire de pouvoir jouer avec l'objet. Et donc, là, il les invite à déchirer une page, et ensuite, il les invite à prendre une position, donc se lever sur le bureau et voir comment on voit le monde quand on est sur le bureau. Et juste changer la perspective, comment on voit la réalité, c'est se donner du jeu.
Et si tous les gens du Québec, ce qui est fort peu probable, changeaient à l'intérieur d'eux, faisaient ce travail, ce défi
de 28 jours. Je vais être honnête avec toi, Marie-Lou, je ne sais pas si c'est le changement qu'on doit souhaiter. C'est-à-dire, on est là puis on veut que le monde change ou se changer. Moi, je pense que le défi, c'est de plonger dans ce qu'on est pleinement. Surtout comme Québécois, là, de plonger dans ce qu'on est plutôt que vouloir toujours se changer. Je vais être honnête avec toi, je suis un peu allergique avec cette dynamique de changement où on doit toujours changer. Là, on peut changer notre point de vue par rapport à la situation. Mais le plus grand défi, c'est de plonger à l'intérieur de soi et d'assumer pleinement qui on est.
Alors, plonger à l'intérieur de soi, ça veut dire quoi pour toi?
Moi, j'ai utilisé la métaphore des phares.
Oui, phare, P-H-A-R-E-S.
Exactement. J'ai un peu joué avec la citation de Nietzsche, hein, « Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ».
Te rend plus fort.
Ça m'amuse un peu avec ça. Pour moi, c'est une belle métaphore, si tu me permets le jeu de mots. C'est-à-dire, le gardien de phare, c'est celui qui accepte de plonger en lui. Et il y a trois étapes pour le gardien de phare. C'est-à-dire, la première étape, c'est qu'il va placer son phare en enfer. C'est un symbole pour dire qu'il va placer son phare en haute mer, là où il n'y a personne. Et c'est une invitation à chacun de nous, quand on plonge à l'intérieur de nous, de cultiver un point de vue qui est unique sur le monde. Accepter d'être seul, accepter d'être dans un océan, en enfer, dire « mon point de vue il est unique, mais j'accepte que momentanément je plonge à l'intérieur de moi ». Et donc la première étape, c'est ce qu'on appelle le phare en enfer. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Pour les gardiens de phare, la deuxième étape, c'est un purgatoire, c'est un phare qui est sur une île. Et là déjà, un phare sur une île, on interagit déjà avec les gens, on interagit plus avec les autres. Et là, notre lumière, hein, notre jeu de lumière, parce que le sens du jeu, c'est aussi de développer sa lumière sur le monde. Là, notre lumière interagit avec les autres. Comment on interagit avec... on est sur une île, là, fait que là, on interagit avec les autres. Et la troisième étape du gardien de phare, c'est un phare sur la terre ferme, en plein milieu de la civilisation et tout ça. Donc, il y a quelque chose d'initiatique dans le parcours du gardien de phare où quand tu acceptes de plonger en dedans de toi, tu vas chercher une couleur, une lumière particulière.
Tu voyages avec ce que tu es.
Exact.
Mais j'en appelle quand même un petit peu à la transformation parce que même si...
je te pose la question, est-ce que c'est la même chose? Pourquoi le changement et la transformation, c'est deux mots qui sont différents?
C'est-à-dire que je veux dire la transformation dans le fond. Ouais. Parce que la transformation et le changement aussi, changement de dynamique intérieure. C'est-à-dire que
Tout à fait.
Parce que je me dis, je peux être tout ce que je suis, mais je peux aussi être mal.
Oui.
Et ce mal-là, je peux l'envoyer dans la société et détruire autour de moi.
Tout à fait.
Alors que pour moi, l'important, c'est d'en arriver à me rencontrer, à être en présence de moi et à voir ces lieux-là où je ne suis pas connecté ou je suis
tout à fait.
En résonance avec moi-même et les autres.
Donc, nécessairement, il y a un changement ou une transformation. Moi, je préfère le terme transformation que changement.
Je suis d'accord
avec toi. Je trouve que parfois, on met un peu trop l'accent sur la dimension technique. Je vais prendre telle technique pour me changer. Puis là-dessus, je pense qu'il faut voir qu'il y a quand même deux aspects pour les Jungiens. Moi,
tu es psychanalyste jungien.
Ouais, c'est-à-dire, je m'intéresse à Jung, mais tu sais, on lui a posé la question, Jung, il a dit, vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, les gens viennent jungien. Jung a dit, heureusement, je ne suis pas jungien. En tout cas, je dis que je m'intéresse à Jung, mais pour Jung, l'originalité d'une personne pousse comme une fleur. Alors, il y a du changement dans une fleur, hein, elle grandit. Oh, oui. Donc, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, ce que j'observe, moi, ça fait 25 ans que je pratique comme thérapeute, j'adore mon travail, mais ce que j'observe souvent, c'est que les gens, ils viennent dans un espoir de changer comme ils viennent chez le garagiste. Changez-moi ce morceau-là, changez-moi ci, changez-moi ça. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je suis un peu parfois allergique à la notion de changement, où les gens sont souvent, puis je m'inclus là-dedans, si j'étais autrement, je serais mieux, ou si j'avais ça, je serais mieux aussi. Et donc, c'est pour ça que soyons curieux du changement qui se fait naturellement à l'intérieur de nous. Peut-être
du changement
plus...
ou la transformation? Je t'ai eu.
Donc, peu importe le mot qu'on utilise, on peut changer le mot.
On peut le transformer. Parlant de transformer.
Mais tu vois l'idée. C'est-à-dire, il y en a une qui vient de l'intérieur, puis il y en a une qui veut imposer par l'extérieur.
Oui.
D'ailleurs, c'est la même chose avec un œuf. Un œuf, là. Non, mais ça, ça me permet de jouer, là. Un œuf, quand on le casse de l'extérieur, ce qu'il y a dedans, ça meurt. Mais l'œuf, quand ça casse de l'intérieur, ça fait toutes sortes d'affaires.
C'est une très, très belle image que je connaissais pas, que j'aime beaucoup. Écoute, j'ai envie qu'on parle des perles.
Ben oui.
Parce que je sais pas ce qui se passe avec toi, mais il y a un grand jeu dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, et c'est le jeu des perles. Et j'aimerais ça que tu m'introduises à ce jeu-là.
Oui. Ce que je peux te dire là-dessus, c'est que ça fait depuis 20 ans que j'écris des livres et ça fait depuis 20 ans que je dépose des petites perles un peu partout dans le monde.
Des perles, on parle des billes, on parle...
Mais écoute, je vais être honnête avec toi, les billes, ça vient du pot de ma belle-mère. C'est-à-dire, ma belle-mère, elle a un pot de... je la remercie, d'ailleurs, je l'adore, ma belmère. C'est rare qu'on aime notre belle-mère, hein, mais c'est rare que j'ai l'occasion de... Mais j'adore ma belle-mère. Et donc, j'ai pris ça dans son pot de billes.
Mais elle doit plus en avoir beaucoup, si
non, justement, récemment, elle me disait... bon, fait que je l'ai acheté chez Walmart aussi, Dollarama, d'ailleurs. Ouais. Fait que la bille en soi, là, pas de valeur en soi, ça, c'est une bille. Hein. Et donc, depuis des années, depuis une vingtaine d'années, je dépose à des lieux qui sont symboliques, des lieux qui sont sacrés, pour moi, dans mon histoire à moi, des perles. Et je dépose aussi dans des relations qui sont symboliques. Donc, des lieux, des personnes, comme par exemple Raoul Duguay.
Ah,
Raoul
Duguay
qu'on connaît, je suis arrivé chez lui, je débarque avec mes perles, puis je lui donne mes perles. Je dis, regarde, toi, t'es une perle du Québec. Puis là, je lui donne ça. Donc, les gens qui sont significatifs, des gens, des lieux ou des événements. Et donc, depuis une vingtaine d'années, je dépose comme ça des perles un peu partout. La première, tu sais où je l'ai déposée, la première perle?
Non.
Au sommet de Mykérinos, le 1er janvier 2000.
Ah oui?
Passage des pyramides, j'ai déposé.
Wow.
Un petit objet symbolique. À cette époque-là, je l'appelais pas une perle, mais c'était un objet symbolique que j'ai déposé au sommet de la pyramide de Mykérinos. Parce que j'ai eu la chance, le 1er janvier 2000, d'être... il y avait un spectacle, Jean-Michel Jarre qui présentait son spectacle « Les 12 rêves du soleil ». Et donc, j'ai eu la chance, pendant la pause du spectacle, de monter la pyramide de Mykérinos et puis de déposer un petit objet symbolique au sommet de Mykérinos le 1er janvier. Tu sais, il est 2h30 du matin, là, 1er janvier 2000. Fait que c'est un peu le départ, le point de départ de mon jeu de perles. Et là, si vous allez sur le site sensdujeu.net, vous allez trouver les différentes étapes de mon parcours de perles. Mais j'invite chaque personne. Récemment, j'avais un ami qui me disait, j'étais à Lourdes, j'ai déposé une perle à Lourdes. Bon, ça, c'est symbolique, là. Faut pas dire, faut pas partir dans des peurs, là. Mais, mais ça m'a vraiment touché, ça m'a touché le cœur. Donc, un lieu, une personne ou un événement qui est symbolique. C'est ça une
perle. Mais qu'est-ce que toi, parce que c'est quand même toi qui es l'instigateur, l'initiateur de ce jeu de perles-là, entre guillemets.
On va mettre des gros guillemets là-dessus. Tu vas interviewer Jean Désy prochainement.
Oui.
C'est un très bon ami avec moi. Il va te parler d'Hermanès.
Ah!
Je suis sûr qu'il va te parler d'Hermanès, c'est son idole. Moi aussi, j'aime beaucoup Hermanès.
Bon, ben écoute, on en reparlera, puis on s'en reparlera.
Voilà, on s'en reperlera.
On s'en reperlera. Mais ce qui m'intrigue, c'est un grand mot, c'est Jean-François Vézina... Qu'est-ce que toi, ça t'apporte quand tu déposes une bille? Quand tu, il y a sûrement, je vois presque l'enfant en toi qui s'amuse à aller mettre des billes un peu partout.
Oui.
Mais j'ai l'impression, je me dis, il y a quelque chose qui doit l'amener en quelque part, qui doit le toucher profondément pour agir comme ça partout au Québec, dans le monde.
Tiens, je t'en donne une.
Oh, qu'elle est belle. Merci.
Le geste de
tu me donnes celle-là? Oh, ben ça, c'était pas prévu, ça.
Ça, c'était pas prévu.
Génial. Tu vois ce qu'on vient de vivre? Là, on vient de vivre un événement.
Un
événement. On vient de créer un événement. On vient de se partager chacun une perle. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte le plaisir de donner gratuitement quelque chose.
Mm-hmm.
Moi, je trouve qu'on manque de gratuité dans notre vie. Et donc, de déposer ces perles. Écoute, je suis allé jusqu'à Natashquan. J'allais décorer la maison de Gilles Vigneault. Je ne sais pas. J'avais envie d'honorer la perle du Québec qu'on appelle Gilles Vigneault. Donc, je suis allé déposer des perles, là. Je suis allé chez notre cher Raoul Duguay.
Qui sera avec nous la semaine prochaine.
Voilà. C'est le plaisir de donner quelque chose de gratuit, faire quelque chose. Les gens sont là, mais pourquoi tu fais ça? Je le sais pas toujours. Mais le plaisir du geste symbolique, le plaisir du geste poétique, le plaisir de donner quelque chose de gratuit, moi, ça m'enivre.
Est-ce qu'il y aura un livre où tu vas nous... Ben oui, parce que moi, ce côté écrivain, bien qui vient de sortir, auteur, est-ce que tu vas écrire? Parce qu'absolument, tu écris sur ces...
En ce moment, c'est un jeu. Donc, c'est un jeu de perles. Donc, j'invite les gens à cacher des perles un peu partout dans le Québec. Surtout des perles bleues. Là, on est au mois de rouge. On est au mois rouge en ce moment. Là. Donc, j'invite les gens à cacher rouge, des merci. Perles bleues.
Même ton micro est rouge.
Oui, c'est ça. Et toi, il est jaune. Ouais. Écoute, il y a différentes couleurs. Donc, la perle bleue. La perle bleue est associée au temps. En tout cas, si vous allez sur mon site web, hein, vous allez voir. La perle rouge est plus associée à l'espace. La perle verte est associée à la vie, aux relations. Écoute, j'invite les gens à s'amuser avec ce jeu. Donc, pour répondre à ta question, c'est d'abord un jeu. C'est d'abord un jeu, peut-être, c'est-à-dire peut-être. Bien sûr, je suis en train d'écrire. J'ai été très blessé dans mes dernières tentatives d'écriture. Tu sais, tu m'avais reçu avec le petit dictateur. J'ai pas eu une bonne expérience autour du petit dictateur. D'ailleurs, c'est le mois du petit dictateur, parce que chaque mois, j'ai commencé au mois de mai. Au mois de mai, je déposais une perle qui était en l'honneur des hasards nécessaires. Au mois de juin, c'était en l'honneur de mon livre Se réaliser dans
parce
un monde
image. Honores.
Oui, c'est-à-dire, moi, pour moi, c'est des perles. C'est-à-dire, j'ai déposé des livres, j'ai pris 4 ans pour chaque livre. Fait que pour moi, c'est à la fois un lieu. Donc, pour les hasards nécessaires, c'était les pyramides, et puis ça correspondait avec les hasards nécessaires. Ensuite, c'est la Polynésie française. La Polynésie française, ça a correspondu avec Se réaliser dans un monde d'images. Ensuite, en Italie, avec l'aventure amoureuse, où j'ai rencontré Francesco Alberoni, notamment, qui est une perle.
Oui,
c'est une autre Francesco, perle. C'est une autre perle.
Il n'y a que des perles autour de toi.
Mais c'est nous qui décidons.
Alors
c'est
toi,
c'est nous
décider,
qui décidons,
Jean-François?
C'est nous qui décidons. Et là, ce que tu viens de me donner, là, c'est moi qui décide que ça, ça a de la valeur. Je sais pas, tu l'as pris, tu as peut-être pris chez Walmart toi aussi.
Non.
Tu l'as pris où ta perle, toi?
Ah, je te le dis pas, c'est un secret. Secret
écoute,
des pyramides.
Je te dis qu'elle vient du pot de ma belle-mère.
Elle a autant de valeur que si je l'avais prise quelque part en Grèce.
Voilà. Ouais. Et donc, le geste de déposer une perle quelque part lui donne de la valeur. Le geste de donner à quelqu'un lui donne de la valeur. C'est aussi avoir un pied de nez à cette espèce d'obsession que les choses ont de la valeur comme... extérieur, hein? La valeur vient seulement de la valeur d'usage que je peux en faire ou la valeur uniquement la valeur marchande, c'est une valeur poétique. Et ça, c'est extrêmement rare aujourd'hui.
C'est bien dit, une valeur poétique.
Puis écoute, c'est pas moi qui ai lancé ça. C'est Herman S.
J'ai eu Le Loup des Steppes.
Eh oui.
C'est un
grand auteur
que j'ai connu très récemment, ça fait pas longtemps.
C'est drôle quand tu me parles de Loup des Steppes, il y a 2 ou 3 personnes qui viennent de m'en parler. C'est celui que j'ai pas lu. Alors c'est celui que je vais aller lire.
Ah, ça c'est la folie. C'est la folie. Mais c'est parfait parce que c'est un monde. Je pense que ça prend des gens comme ça, des gens qui sont un peu éclatés, puis c'est dans le bon sens du mot.
Écoute, moi je pense qu'effectivement, ça à un moment donné, il faut s'éclater. Ou s'éclater, c'est avoir du fun, ou avoir du plaisir. En ce moment, on n'a plus de fun.
Oui. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir du plaisir si on se donne la permission d'avoir du plaisir. Mais quand je dis éclater, je pense autant à Raoul, à Pierre de Gagné, à Jean-François et même à moi-même et à des gens que je connais. Je pense qu'un éclatement, être un être éclaté, c'est pas nécessairement ne pas avoir de frontières parce qu'on sait quand même, on connaît nos limites, mais c'est être capable justement de jouer à l'intérieur de ça.
Tantôt, c'est pour ça. Tantôt, tu m'as dit, il y a des limites. Oui, oui. On joue à l'intérieur des limites.
Oui, mais c'est comme ce que j'allais dire, que j'allais rajouter, c'est que ces limites-là, tranquillement, parce que je me permets d'être et de jouer de plus en plus en voyant ce que ça fait autour de moi, c'est l'expansion.
Ça devient un terrain de jeu planétaire. Écoute, tu vas voir la carte que j'ai réalisée, une carte mondiale de toutes les perles. Il y en a au Tibet, il y en a partout. Là.
Mais t'en as pas mise là-bas.
J'en ai mis au Tibet, oui.
T'en as mis au Tibet?
Oui, j'en ai mis au Tibet. Quand je suis allé au Tibet, quand je suis allé en Italie, j'en ai mis partout. Attends, tu vois sur la carte où j'en ai mis. Quand je suis allé à New York, le temps des fêtes, là, je suis allé à New York. En fait, je voulais aller à la maison où Saint-Exupéry a écrit son livre, The Beaver House, à Long Island. Mais j'ai eu des petits problèmes à la douane. Fait qu'en tout cas, bref, quand j'ai dit à la madame que j'allais, parce que la dame des douanes a se demandé pourquoi j'allais aux États-Unis, j'ai dit, je m'en vais cacher une perle dans la maison de Saint-Exupéry. Elle a dit, vous. Fait que je suis resté 2 heures aux douanes. En tout cas,
je l'aurais peut-être pas dit, moi.
C'est ça. Fait que je suis pas allé là. Par contre, je suis allé déposer une perle à l'endroit où Saint-Exupéry a vécu quand il était à New York même. Moi, je voulais aller au Beaver House, c'est l'île de Long Island. Mais on peut aller, ça s'appelle le restaurant La Grenouille, quand vous allez à New York. Tu connais peut-être le restaurant La Grenouille à New York? C'est là que Saint-Exupéry a écrit quelques lignes du Petit Prince. Oui. Et donc, si vous allez à New York, vous allez trouver une petite perle en face, le pot de fleurs en face du restaurant La Grenouille où Saint-Exupéry a vécu.
C'est merveilleux. Il y a des chansons, il n'y a pas des chansons,
mais de la musique, oui.
L'improvisation printanière au piano. Alors, oui. Ce sont des musiques que tu as composées.
Exact. Donc, pendant le printemps dernier, le confinement printanier, je trouvais ça assez poétique. On se confine au printemps. Ce que je faisais, c'est que j'improvisais au piano. Donc, je m'installais au piano à chaque soir pour détendre les gens. Donc, j'avais des lives. Je faisais des lives de piano. Et ça, c'est une improvisation brute. Je l'ai improvisé comme ça, je l'ai lancé comme ça. Ça s'appelle l'improvisation printanière.
On l'écoute. Alors, c'était de la belle musique, donc l'improvisation printanière de Jean-François Vézina, qui est avec nous. C'est un psychologue qui a écrit de nombreux livres, dont Les succès de librairie, Les hasards nécessaires. Vous en avez sûrement entendu parler. L'aventure amoureuse, Danser avec le chaos et...
Tout se joue à tous les instants.
Merci. Menteur. Mais en fait, c'est tout se joue avant 100 ans, mais il vient d'improviser. Et c'est bien parfait parce que j'aime beaucoup plus ce titre-là. C'est drôle parce que je t'écoutais parler tout à l'heure, puis je me disais, bon, le jeu des perles, aller porter des perles, ça et là, dans le monde, au Tibet, en Grèce, à Rimouski, à Matamoros, enfin, toutes les Natashquan. Et je me disais, moi, curieuse comme je suis, il me semble que j'aurais envie de savoir qui a trouvé ou comment ces gens-là ont réagi.
Imagine-toi, tantôt, j'entends parler d'une certaine Marie-Lou qui en aurait trouvé une à Rimouski.
Oui, c'est en fait, j'en ai trouvé une à Matane, une petite perle verte. Je me suis dit tantôt, ça doit être une perle
Très, très bonne chance, parce que j'en ai mis beaucoup à Matane. J'ai tout fait le nord du fleuve, c'est-à-dire tout le fleuve au nord, le sud du fleuve. Oui, c'est très, très bonne chance. Elle était verte.
Elle était verte.
Ouais, très bonne chance qu'elle t'a trouvé.
Mais en même temps, je me dis, alors moi, je trouve une perle. Mais c'est de la poésie, trouver une perle sur le bord sur la grève. Et là, je me disais tout à l'heure, en t'écoutant, moi, j'aurais été tellement curieuse de savoir, tu sais, j'aurais mis ma petite perle dans une bouteille, puis j'aurais mis un petit mot, puis écrivez-moi, puis comment vous êtes-vous sorti? Mais en quelque part, je comprends très bien que c'est pas ça le jeu.
Mais c'est encore plus beau quand tu le sais pas. Là. Tantôt, tu m'as donné des frissons, là, c'est encore mieux comme ça.
Oui, mais il n'y a pas personne qui va te le dire s'ils savent que c'est toi.
Oh, ça, je t'ai habitué, ça. Non, mais je suis habitué à te faire des choses tout seul. Mais en tout cas, bref, merci de l'avoir trouvé. Mais c'est ça la beauté de la poésie.
C'est la beauté de la poésie.
C'est pas toujours avoir un objectif précis, de dire je vais faire ça pour avoir telle chose. Donc, tu fais ma journée. Merci, Marie-Lou.
Ben, ça me fait vraiment plaisir. Tu as même une perle que tu ne t'attendais pas d'avoir aujourd'hui. Oui. Tu as été en Italie ou tu vas aller en Italie?
Donc, moi, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Paris Center, qui est un groupe basé en Toscane, un très, très beau village de Toscane, qui a été créé par mon ami David Pete. David Pete, malheureusement, qui est décédé quelques années. En fait, David, il est décédé le même jour que Jung, le coquin. Il est décédé le 6 juin 2017.
Pas la même année, quand même.
Non, pas la même année. Mais il est décédé le 6 juin, le même jour que Jung. Puis il était très proche de Jung, David Pate. Écoute, David Pate, selon moi, là, c'était la sommité au niveau de la synchronicité. C'est un qui a écrit le livre La synchronicité, un pont entre l'esprit et la matière. Il nous manque tellement en ce moment, parce que là, c'est rendu une vraie farce, la synchronicité. Là, tout le monde fait des techniques, des trucs pour. En tout cas, bref, c'est rendu un peu une blague. Mais écoute, David Pate, là, c'était une sommité. Et donc, il a créé ce centre, et c'est un centre qui donc crée des événements autour de la physique quantique, la physique, la science et l'art. Donc, c'est un mélange des trois. Et donc, ils ont créé un événement sur les univers multiples en septembre. Donc, c'était en août-septembre 2020.
À savoir si on existe dans différents mondes.
Exact.
Et dans différentes vies parallèles.
Exact. Et si tu regardes la liste d'invités, là, c'est pas n'importe qui. Des physiciens comme Tim...
Je sais pas, Tim Modlin.
En tout cas, bref, ils ont invité des physiciens.
Tim Modlin,
ils ont invité l'espèce de bizarre-artiste qui est moi-même. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon livre Necessary Chances, les hasards nécessaires... qui a été traduit par Necessary Chances, c'est le Paris Center qui l'a édité. C'est eux qui ont édité la version anglaise. Donc, on a une connexion particulière et donc, ils m'ont invité à cet événement-là. Et donc, cet événement-là n'a pas eu lieu officiellement, mais moi, je me suis amusé.
En raison de la COVID.
C'est ça. Mais moi, je me suis mis à jouer avec l'idée que peut-être cet événement-là a eu lieu. Alors, j'ai créé un site web qui s'appelle le Hilbert Hotel, l'hôtel de Hilbert, où je m'amuse à faire comme si j'avais fait ma présentation en Italie l'année dernière. Donc, c'est un jeu, mais dans le fond, c'est un jeu qui me prépare pour l'année prochaine parce que l'événement va avoir lieu l'année prochaine en Italie, donc en août, septembre. Moi, j'aime bien m'amuser avec la date du 32 août. Oui. Le 32 août 2021. En tout cas, bref,
À 26 heures.
Pardon?
À 26 heures.
Oui, exactement. Et donc on l'a reprogrammé pour l'année prochaine. On ne sait pas si on veut y aller. Et puis, moi, j'aimerais beaucoup y aller avec ma fille. Notamment, j'aimerais beaucoup ma fille Florence, que j'aimerais beaucoup emmener en Italie. Donc, on prépare ça pour l'année prochaine. Et donc, c'est aussi un événement, en tout cas pour moi, qui est très symbolique l'année prochaine, c'est que ça va faire 20 ans que les hasards nécessaires ont été écrits. Et donc, pour moi, je vais aller fêter les hasards nécessaires en Italie. Et donc, je vais aller là. Puis, je vais aller aussi dans une librairie, là, qui s'appelle la librairie Autour du Livre à Cannes. C'est une librairie tenue par une Florence, justement, qui est une perle. C'est une perle, cette femme-là. C'est une gardienne, vraiment une gardienne phare, là, libraire gardienne phare. C'est vraiment, je la vois vraiment comme une gardienne phare du savoir. Là. Et donc, on va fêter les 20 ans des hasards nécessaires, si c'est possible, à la librairie autour du livre à Cannes. Donc, l'année prochaine, j'organise un événement autour de tout ça, et dont notamment une conférence sur les univers multiples.
Il y a trois questions, Jean-François, que je vais être certaine qu'on aborde avant de nous quitter. Il y a le virus de l'idée.
Ouais.
Ça, c'est une chose. Il y a le cercle Jung.
Ouais.
Mais il y a aussi cette question qui vient de popper. Quand tu as parlé de synchronicité de l'esprit et de la matière, et j'ai envie que tu m'en parles de ça. De quoi on parle quand on parle de synchronicité de la matière et de l'esprit? Parce que ça me touche.
Pour faire une petite histoire courte, justement, récemment, il y a un journaliste qui voulait faire une entrevue avec moi, puis finalement, j'ai annulé l'entrevue parce que j'allais porter des perles chez Natasha Kwan. Fait que j'ai pas fait l'entrevue avec lui. C'était le 24 juin, en passant, que je suis allé là. Puis en tout cas, bref, j'ai dit non, je pourrais pas faire une entrevue avec vous. Mais je lui ai donné une définition très, très simple de la synchronicité qui m'apparaît, selon moi, la définition la plus simple qu'on peut donner. C'est imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite montre. Tu viens au monde avec une montre et tu as un temps qui est propre à toi. Tu es un organisme, tu es une création, tu es un organisme vivant qui a ton propre temps dans ton cœur. Ton cœur, il bat dans un beat qui est vraiment propre à toi. eh bien, plus tu interagis avec les gens, plus tu interagis avec la matière, plus ton beat, il se désynchronise avec ce que les autres, le temps des autres, hein, l'horloge, l'employeur, hein, c'est un employeur, de tout le temps à l'extérieur. Donc, ton temps à toi, il risque de se désynchroniser. Eh bien, imagine qu'une synchronicité, c'est une rencontre qui va te resynchroniser avec ton temps. C'est une rencontre qui va te reconnecter avec ton temps propre à toi, avec ton beat à toi, avec ta musique à toi.
C'est juste au niveau de la rencontre?
Ben, moi, je l'ai étudié au niveau de la rencontre. Moi, c'est à ce niveau-là que je l'ai étudié, les grandes rencontres synchronistiques. D'ailleurs,
parce que l'esprit, la matière, c'est deux
voilà.
choses.
D'ailleurs, pour parler du Cercle Jung de Taekwondo, c'est ma nouvelle création. J'ai été président du Cercle Jung de Québec pendant 7 ans.
Parce qu'il faut le mentionner, tu es psychanalyste jungien.
C'est ça, j'ai une orientation jungienne. Et donc là, je crée un nouveau cercle, Cercle Jung de Taekwondo, dans lequel on va s'intéresser à la part de Jung pour mieux comprendre les enjeux de la société à travers les concepts de Jung, mais on va utiliser le cinéma et je lance en primeur ici. On va en faire un le 12 octobre, lundi le 12 octobre. Je vais quand même redonner tout ça, on va pas trouver ça sur mon site web, sur le film A Star is Born, qui est une rencontre complètement synchronistique entre deux personnes. Bon, c'est un peu cucu, là, vous allez dire, là, mais si on va un peu en dessous, c'est ça une rencontre synchronistique. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vit dans un temps qui est propre à elle, mais à un moment donné, il se désynchronise, et c'est une chanteuse qui a un grand talent pour...
Voilà, c'est et Lady Gaga.
Exactement, Lady Gaga, qui a un petit côté trickster qui est assez intéressant, mais donc là-dedans, elle joue le rôle de quelqu'un qui a une voix et qui fait une rencontre qui va permettre à cette voix-là d'émerger. Et donc, c'est ça, une rencontre synchronistique. Alors oui, je me suis intéressé plus à la rencontre synchronistique, mais il y a tout un travail à faire. Puis ça, c'est d'autres personnes, comme par exemple, j'ai signé une préface récemment de Géraldine Prévost-Gigant, qui a écrit un livre qui s'appelle « La force de la rencontre », qui s'intéresse beaucoup à la synchronicité, elle aussi. J'ai signé sa préface. C'est une auteure, moi, qui m'impressionne beaucoup, parce que, comme je disais, il y a toutes sortes de choses qui se disent sur la synchronicité, mais c'est quelqu'un qui m'apparaît très sérieuse, et qui s'intéresse justement à la vie symbolique, c'est-à-dire à la dimension symbolique des synchronicités qui, à ce moment-là, est à un autre niveau. C'est-à-dire, il y a la rencontre qui va créer des avant et des après, mais il y a une vie symbolique, des symboles. Et donc, c'est les différents niveaux qu'on pourrait dire de la synchronicité. La grande rencontre, puis les petits symboles qui viennent nous réveiller.
Oui, alors c'est ça, ce qui m'amène quand même à cette idée du virus de l'idée, parce qu'il y a les petits symboles, il y a les grands symboles, il y a les rencontres qui se font différemment sur les réseaux sociaux et qui deviennent presque un virus entre guillemets.
Oui. Mais d'ailleurs, tu me permets de faire de la pub. La deuxième rencontre, on va faire ça sur le documentaire de Social Network qui est diffusé en ce moment sur Netflix, qui questionne justement le rapport aux médias sociaux. Dans le fond, on se demande qu'est-ce qu'on a créé, cette espèce de média social-là. À la base, ça pouvait avoir une fonction de connexion, mais à un moment donné, on se rend compte que...
De connexion et de communication.
Mais c'est ça. Mais à un moment donné, on bifurque vers... Mais si Jung était aussi aujourd'hui, il dirait que c'est simplement le miroir de l'inconscient collectif. Mm-hmm. Et donc, on va faire une rencontre, ça va être le 16 octobre notamment, on va se pencher sur la dimension symbolique des internets et de comment on peut justement rester créatif avec ce jouet. Parce que le problème, c'est pas l'internet, c'est ma relation à l'internet. C'est ça qui est le problème. Et effectivement, c'est un lieu où les idées deviennent des virus. C'est-à-dire que les idées qui se promènent sur internet, à un moment donné, on se met à copier cette idée-là. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre la vie et un virus? Un virus ne vit pas par lui-même. Il a toujours besoin de se copier pour exister. Le meilleur exemple de ça, c'est Palpatine dans La Guerre des Étoiles. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas vivre par lui-même, il est toujours en train de chercher du monde pour essayer de... C'est un parasite. Donc, l'idée qui se promène un peu partout sur Internet et que nous, on copie, le copier-coller de l'idée, à un moment donné, on ne se rend pas compte, mais nous, on propage un virus, le virus des idées sur Internet aussi. Donc, on a à s'arrêter à un moment donné et dire, là, qu'est-ce que je copie, là? Qu'est-ce que je suis en train de copier? Parce que je fais partie d'une espèce de chaîne à un moment donné où je me fais prendre là-dedans. Donc, on va s'interroger là-dessus. Puis on va aussi s'interroger à partir du film Ready Player One, un film de Steven Spielberg qui est absolument génial, qui montre finalement la quête du Graal dans l'univers virtuel. Parce que moi, je crois beaucoup qu'il y a une possibilité de créer quelque chose avec l'univers virtuel. Si on est moindrement créatif, on peut s'en servir comme un écran pour notre inconscient,
C'est-à-dire un peu à la manière de Jung, c'est-à-dire un miroir de soi-même.
Exact, toujours un miroir de soi-même.
Qui permet éventuellement la transformation.
Et les changements.
et les changements.
Mais tu sais, puis si on veut être très concret, puis j'aimerais aussi, pour passer à la prochaine pièce, te parler de la prochaine pièce que je l'ai composée hier.
Octobre bleu.
Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, là, en ce moment, on est dans un mouvement, on dit, là, on va être dans un octobre rouge. C'est-à-dire, là, on se met en rouge, on est en zone rouge, le Québec a des zones. Mais ça, c'est un premier niveau. C'est-à-dire, on le sait que certaines zones sont rouges dans l'espace physique. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, les poètes ou les gens qui veulent avoir un peu, de dire, ouais, mais moi, je mets des petites zones bleues au Québec. Ça, c'est une petite zone bleue. Et comment on peut remettre de la poésie? Parce que là, il n'y a pas de bleu en ce moment.
Mais ça, c'est une action extérieure qui vient se conjuguer en même temps avec quelque chose d'un choix intérieur.
Exact.
Donc, dans ton être, tu te donnes des espaces bleus.
C'est ça, se donner du jeu. Se donner du jeu, c'est se donner des espaces
bleus. Rouge et bleu, ça fait vert. C'est la petite bille que j'ai trouvée.
Puis le rouge et bleu, là, tu le vois partout dans Ready Player One. Les personnages sont rouges et bleus. Tu le vois dans Star Wars aussi. Bref, il y a des belles jonctions à faire. Mais donc,
Octobre bleu,
c'est une pièce que j'ai composée hier soir. Puis moi, je me donne un défi. Puis je donne ça comme défi aux gens. Je dis, regardez, là, les 28 jours qui s'en viennent, on va être rouge. Mais on fait ça pour être mieux collectivement, pour qu'on soit mieux ensemble. Mais vous, qu'est-ce que vous avez envie de relever comme défi, vos 28 jours, là? On va être dans une période de 28 jours, on peut se donner un défi.
Et
c'est la pleine lune aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai composé un début de toune. Un début de toune, j'aime bien faire les débuts de toune. Fait qu'écoute, je te l'offre.
Merci.
J'ai appelé ça Octobre bleu. Puis moi, je me donne comme défi, à la fin du mois, d'en faire une vraie toune. Fait que
parle de toune, on parle de musique,
c'est
bien
ça.
Sûr.
Parce que j'ai un nouveau CD que je veux sortir. Et je vais probablement la mettre là-dessus. Donc, ça s'appelle Octobre bleu. Je vous demande d'être très compréhensif. Là, j'ai fait ça d'une shot hier soir avant de partir.
Parfait. On t'écoute. Alors voilà, ça coupe comme ça, cette musique Octobre bleu. Et ce qui m'amène à poser une question à Jean-François Vézina sur Décembre rouge. Oui. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on parle du temps des fêtes, parce que déjà, sur les réseaux sociaux, il y a comme un genre de petite panique. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une grosse panique, mais il y a aussi une petite panique qui commence à être installée par rapport au temps des fêtes. Les gens ont peur de ne pas pouvoir vivre, parce qu'on a peur que, justement, cette distanciation et ce confinement se répercutent jusqu'au temps des fêtes et qu'on ne puisse pas être avec la famille, avec les amis, fêter, etc. On parle du temps des fêtes. J'aimerais que tu me donnes un peu ton avis sur ce moment qui est quand même important pour les Québécois, mais pour tout le monde. Et on parle du temps.
Ben, peut-être juste sur la peur. C'est-à-dire, quand tu as peur, à qui tu donnes ton pouvoir? Je pense que c'est toujours ça qu'on doit se demander. Quand j'ai peur, à qui j'ai... Donc, j'ai peur de ne pas avoir un temps des fêtes. J'ai peur que ça soit... Parce qu'habituellement, on est habitué à ce que ce soit l'extérieur qui nous dit quoi faire pendant le temps des fêtes. On va dans les magasins, puis en tout cas, bref, on est habitué. Le temps des fêtes, la plupart du temps, c'est pas à nous. C'est comme... c'est moi, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on s'arrête, puis qu'on dise, toi, une fête, ça veut dire quoi pour toi? Arrête-toi, puis fais-en des fêtes. C'est quoi pour toi une fête? Qu'est-ce que tu as envie de fêter pendant le temps des fêtes? Puis moi, c'est ça qui m'a conduit vers Raoul Duguay. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je voulais organiser un colloque sur le temps. Je voulais organiser une fête du temps. Je voulais qu'on fête le temps. Je voulais qu'on s'interroge sur le temps et par les hasards nécessaires de la vie, j'ai une amie qui travaille au Musée du Québec et qui m'a mis en contact avec Raoul. Et c'est comme ça que je suis allé vers Raoul. Je dis, Raoul, ce sera le fun qu'on fasse quelque chose avec le temps. Puis j'ai rencontré chez Raoul une profondeur. C'est un philosophe qui a une extrême profondeur.
C'est un des plus grands, à mon avis, au Québec. Voilà.
Alors, j'arrive chez Raoul, je dis, ce sera le fun d'essayer d'organiser quelque chose, fêter le temps. Fait que donc, c'est un peu dans cette mouvance-là que j'ai envie qu'on s'arrête, puis qu'on dise, mais moi, là, la fête du temps, ou le temps de la fête, ou le temps des fêtes, ça va être quoi pour moi cette année? Il y a bien sûr le gouvernement qui va nous dire de faire un certain nombre de choses. Ça, c'est une chose qu'on contrôle pas. Mais toi, tu as envie de vivre ça comment? Avec qui? Et puis, de s'arrêter, puis de fêter le temps. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est organiser un anti-bye-bye. C'est-à-dire, le bye-bye, tout le monde, on va arriver à la fin de l'année, on va dire, ah, excuse-moi, on sac pas ici, c'est... désolé. Mais... 2020, on ne veut plus rien savoir. OK, on est habitué ça au bye-bye du passé. Si on faisait une espèce d'événement, bienvenue 2021.
Un renversement.
Bienvenue 2021, là. Puis toi, 2021, j'ai envie de vivre ça. Puis j'ai envie de faire des fêtes. Mais fêtes, reprendre le pouvoir de la fête. Créer des événements.
Mais en même temps, je trouve ça très intéressant. Mais je me dis, bon, on part du principe qu'il y aura peut-être, on ne sait pas encore. Mais admettons qu'il y a des règles gouvernementales et que moi, je me dis, ah, j'ai envie de fêter avec ma famille à Rimouski, dans le bas du fleuve. Il y a de l'extérieur, il y a quand même un obstacle.
Et cet obstacle-là peut générer du jeu, cet obstacle-là peut générer de la créativité.
Donc, je peux penser à fêter, mais je dois penser à une autre alternative que celle de fêter
en
famille.
Et c'est ça l'avant et l'après et COVID. C'est-à-dire, les COVID nous amènent dans un nouveau monde où on ne sait pas de quel type de monde on va avoir. Là. Mais on doit s'arrêter puis identifier justement, moi j'ai envie de fêter ça comment? Et ça se peut que ça soit une occasion pour les gens de dire, moi je suis tanné d'acheter des cadeaux tout le temps, puis là, je veux vivre, moi, je veux écrire une lettre, par exemple. Et puis, le cadeau que je vais offrir cette année, c'est que je vais prendre le temps, je vais écrire une lettre. Ou je vais faire une toune, si on est musicien. Je vais faire une toile.
Écrire un livre.
D'ailleurs, moi, j'ai envie de faire ça, mes prochains livres. J'ai envie de les écrire personnalisés à chacun, parce que là, j'ai plus d'éditeurs qui veulent m'éditer. Mais je dis, OK, le fait qu'on rencontre un obstacle, j'en ai rencontré des avant. Comment, à partir de l'obstacle, on peut nous repositionner. Alors oui, moi c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'écrire un livre pour la personne. Je vais probablement t'en écrire un livre. Je m'engage là avec toi.
Ouais, voilà, mon éditeur.
Je te dis pas quand, par exemple.
Ah, d'accord.
Mais écrire un livre personnalisé pour chacun, écrire un poème, ça peut être des occasions de fêter autrement.
Mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas juste deux éditeurs au Québec.
J'aime ça jouer à la victime, des fois.
Oui, juste. Donc je dis ça comme ça pour justement éclater ton être.
Oui. Mais donc, pour revenir à la notion de fête, c'est un événement. Et ça, là, ça me vient du grand... L'Einstein moderne, là, c'est Carlo Rovelli. Il s'appelle Carlo Rovelli. C'est lui qui a écrit le livre « L'ordre du temps ». Si vous voulez vous faire un cadeau de Noël pour réfléchir à la notion de temps, allez vous chercher le livre « L'ordre du temps » de Carlo Rovelli. Il dit plein de choses là-dedans. Notamment, une façon de mesurer le temps, c'est que l'univers a commencé chaud et il va être froid, il va se refroidir. Ça va toujours être comme ça qu'on va savoir qu'il y a du temps qui passe. Ça commence chaud, puis ça se refroidit. Bien sûr, on peut essayer de réchauffer la planète artificiellement.
On est capable. Hein?
On est capable. Puis on est capable. Si tu as vu le film Tenet, le film Tenet, c'est quelqu'un qui refuse que le temps passe, fait qu'il se dit, on va tout enlever ça, puis on va essayer de revenir dans le passé, on va essayer de réchauffer le passé au lieu de laisser le temps passer.
Mais il y a quelque chose par rapport au temps, moi, qui me... Je me dis, pourquoi on fait... Bon, je sais qu'on est dans une société, qu'on n'a vraiment pas le choix, mais en même temps, il y a une référence au temps qui devient, tu sais, le temps des fêtes, le temps de ci, le temps de les anniversaires, etc. Voilà. J'ai rencontré Richard Bach, tu sais.
Ah, toi, là!
Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui sur son île.
Je t'envie tellement là, pour ça, là.
Mais... lui me disait, je ne donne plus jamais mon âge. Puis c'est pas une question que quand tu arrives à 60 ans, à 70 ans, à 80, que là tu dis, ah ben là, je suis mieux de pas donner mon âge. Parce qu'il dit, souvent les gens te cadrent dans un temps. Et parce qu'ils te cadrent dans un temps, tu restes dans leur tête et dans l'univers au complet.
C'est exactement ça. C'est exactement le temps carré. Le temps carré. Ouais. Moi, c'est le temps rond que je veux.
Moi, j'aime mieux pas de temps, tu sais, comprends?
Ben, c'est ça. Mais pour revenir sur l'âge, moi, ce que je rajouterais à Richard Bach, là, le temps, c'est une fréquence.
C'est une vibration.
C'est une vibration. Ouais. Laisse pas la société t'enfermer dans une fréquence à la mode ou une fréquence. Le temps, c'est une fréquence. C'est-à-dire l'âge. L'âge est une fréquence.
C'est comme tu dis à quelqu'un, il y a, je sais pas, 70 ans. À partir du moment où on dit 60 ou 65 ans, la retraite, alors c'est comme tout est déjà programmé.
Ouais.
Et c'est comme s'il n'y a plus d'espace. Il y a plus, on est dans une société qui nous a encadrés dans le temps.
Sauf quand on aime ça jouer avec les perles, parce que moi, ce que j'ai fait, j'étais allé déposer des perles. Sûrement, Gilles Vigneault, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une perle, c'est un trésor national. C'est-à-dire c'est des gens là, qu'on doit, on doit célébrer. On doit les fêter, ces gens-là. J'ai fêté ma mère aussi comme ça. C'est-à-dire, ma mère a fait des masques. J'ai fait des masques de perles aussi avec par le biais de ma mère. Mais ma mère, j'ai fait une vidéo pour souligner sa vie, pour souligner son histoire. La perle, c'est aussi ça. C'est-à-dire, fais un collier de perles avec les gens que tu aimes. Souligne que c'est des gens-là, parce qu'une perle, c'est quoi? C'est un grain de sable qui arrive, une blessure qui arrive. Et lentement, on tourne autour. Et lentement, lentement, ça devient une perle.
Oui. C'est ça, la transformation. Mon cher Jean-François Vézina, c'est toujours un plaisir que de venir, que toi, tu viennes dans notre studio.
Merci.
Je te remercie infiniment aussi de ta parole. C'est toujours instructif. Et si on veut te joindre, si on veut avoir des perles ou des billes, comment on fait pour te joindre?
Sensdujeu.net.
Sensdujeu.net.
Sensdujeu.net. Ma page Facebook, c'est celle qui a le moins de likes. Moi, j'aime pas ça avoir des likes. Elle est difficile à trouver des fois. Mais donc, ma page Facebook, sensdujeu.net ou jfvizina.net.
jfvizina.net.
Ou promenez-vous dans le Québec. Vous allez en Gaspésie. Vous allez en avoir, il y en a plein. Si vous allez à la maison de René Lévesque, j'ai placé des perles chez René Lévesque. Il y en a partout. Alors, promenez-vous. Puis.
Merci.
Ah, c'est moi qui te remercie, Marie-Lou. C'était un trésor. T'es une perle, justement, du Québec, toi aussi.
C'est une perle du Québec. Écoute, avec Raoul Duguay, avec Gilles Vigneault, mon cœur est comblé. Je te remercie infiniment. Merci. D'ailleurs, on parle de Raoul. C'est lui qui sera avec nous la semaine prochaine. Et je te remercie infiniment de ta visite de venir de Québec, d'ailleurs. C'est tout un événement. Surtout dans deux régions rouges.
On Québec rouge. En bleu. On vient de virer en bleu.
Dans le milieu. Et un gros merci aussi à Pierre de Gagné. Je vous dis à la semaine prochaine.